Ça fait toujours très plaisir de revenir ici à Ozoir. Et je viens avec beaucoup de nostalgie, hein, parce que je me vois en train de gratter les joints. Ah oui, bon. Les joints de carrelage. Je me rappelle des discussions au sujet du chauffage. Quel genre de chauffage on allait faire? Mais ce n'est pas seulement la nostalgie, oui, la bonne nostalgie. Ça fait tellement plaisir de voir Solange et Christian qui étaient dans mon groupe de jeunes. Et donc de se rappeler de tout ce que le Seigneur a fait à cette époque-là. Mais on va prier ensemble. Hein. Seigneur, nous avons chanté, nous avons pris le repas du Seigneur, nous avons médité ta mort à la croix pour nous. Et Seigneur, nous sommes maintenant, nous voulons nous mettre en mode écoute pour écouter ta parole, pour que tu puisses nous parler. Seigneur, c'est notre grand désir. Parle-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais essayer de voir comment ça marche. Mais c'est comme ça. Alors, la ville grouillait de monde. Alors, quand la ville grouille de monde, les commerçants sont contents. Hein. Le grand sourire. Alors, les hôtels et les auberges étaient bondés. Et comme est toujours le cas dans ce genre de situation, la police est en alerte. Parce que Jérusalem, à l'époque de la Pentecôte, triplait sa population. C'est peu comme Cannes. Hein. Cannes, pendant l'année, c'est une ville relativement tranquille, mais pendant l'été, la population triple. Et Jérusalem, ce n'était pas pendant l'été, mais trois fois pendant l'année, pendant les grandes fêtes, donc la Pâque et la Pentecôte, donc au printemps, et puis la fête des cabanes, qui était à l'automne, c'était le moment où la population triplait donc de 50 000 habitants jusqu'à 150 000, avec toute la joie et tous les problèmes aussi. Hein. Et au milieu de toute cette effervescence dans la ville, se trouve un groupe tranquille, 120, dans ce qu'on appelle la chambre haute. Alors, je ne sais pas combien de personnes vous pouvez mettre dans votre chambre, mais chez nous, on ne peut pas mettre 120. Donc, c'est certainement une très grande pièce à l'étage. Et là, il y a donc les disciples et tout le groupe. Prier, certainement, chanter des chants de Pentecôte, hein. Et lisez des textes bibliques, certainement, probablement au sujet de la loi, comme Paul nous a dit. Et c'est vers 9h le matin, parce que ce n'était pas un culte à 10h, c'était 9h le matin, tout à coup, le vide bascule. Il y a un vent violent qui démontrait certainement la puissance de Dieu. Et puis, en même temps, il y a ce phénomène bizarre où il y a une flamme de feu, une lampe de feu qui descend et sur eux. Et alors, les artistes ont montré comme ça, ou comme ça, ou comme ça, je préfère ça plutôt, et qui indiquait le feu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament indique souvent la purification, la sainteté, parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir, le Saint-Esprit. Et il y a ce phénomène où tout à coup, tout le monde commence à parler dans des langues étrangères qu'ils n'ont jamais appris avant, qui veut montrer certainement que maintenant le message de Dieu est universel. Mais pourquoi ces trois signes? Alors, je pense que c'est la façon de Dieu de nous montrer, attention les amis, il y a maintenant quelque chose d'important qui va se passer. Nul n'ignore qu'on est au milieu de la Coupe du monde foot pour les femmes. Ben, on a fait de la pub, hein? Télévision, radio, presse, partout, on parle de ça. Et pourquoi ils font ça? Parce que pour tout ça, et c'est certainement aussi pour l'argent, mais c'est pour qu'on sache que, les amis, il y a quelque chose qui... Et puis, il y a la cérémonie de l'ouverture, hein, et puis, c'est, les amis, il y a quelque chose d'important qui se passe. Et c'est la façon de Dieu, à l'époque, et pour nous, de nous rendre compte, les amis, quelque chose d'important se passe. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas beaucoup de choses. Mais Dieu fait à sa façon. Et puis, une foule s'attroupe. Et moi, j'ai compté, ça fait 16 nations. Et donc, on voit jusqu'à quel point Jérusalem, au centre du monde, de toutes ces personnes qui s'attroupent à Jérusalem pour les différentes fêtes. Mais je pense que ce serait peut-être mieux, si au lieu de commenter, on va lire le texte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous ensemble, tous rassemblés en même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. En même temps, au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui rassemblaient à des flammèches. Ils se séparaient et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans des différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde, vous les avez vus, hein, séjournaient à Jérusalem, certains dans les auberges, d'autres chez eux, chez les parents, hein, et entendant ce bruit, ils s'accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Alors, Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien !» Et ça, c'est comme ça qu'Actes chapitre 2 commence. Avant Actes chapitre 2, il y a Actes chapitre... Oh, on voit que Oswald la Ferrière n'a pas perdu son discernement. Et dans Actes chapitre 1, il y a le verset 8. Et c'est Jésus qui parle, juste avant de monter au ciel. Il dit, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. » Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et donc, ce que nous voyons dans Actes chapitre 2, c'est un accomplissement de cela. Mais en même temps, ça donne la trame de tous les livres. Parce que la Pentecôte se trouve où? Ben, à Jérusalem. Et puis, par des cercles, par des vagues, l'Évangile va passer de partout, de Judée, de Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde, parce qu'à la fin des Actes des Apôtres, Paul sera au centre de l'Empire romain, à Rome même. Et donc, nous voyons, et c'est comme ça, quand vous regardez ce livre, vous avez là le tram. Et donc, Pierre se met debout. Alors, il n'a pas eu beaucoup de préparation. Hein. Et il n'a pas eu le temps de passer du temps en réfléchissant qu'est-ce qu'il va dire. C'est l'improvisation, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, complète. Et là, ce qui est absolument remarquable, c'est de voir comment il cite les Écritures. Il va citer par exemple, le livre de Joël, 5 versets dans le livre de Joël. Et certains d'entre vous, si je vous demande où se trouve le livre de Joël, et je ne parle pas de mon fils, vous ne saurez même pas le trouver. Mais il ne connaît pas cœur. Et puis, ça sort de sa bouche d'une façon absolument remarquable, et il prépare le chemin, et après, il va parler de la croix et de la résurrection. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il a la prédication de la croix et de l'humanité, et de la résurrection. Et d'une façon immortelle, les vérités. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Et il continue comme ça. Et les gens sont absolument sidérés par tout ce qu'ils entendent. Et ce discours toucha profondément ceux qu'il avait entendu. Il demanda à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Tic-tac, la réponse vient. Pierre a répondu, changez! Dans des vieilles traductions, c'est repentez-vous. Hein. Mais changez de vie. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez, comme nous les disciples, nous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la conséquence? C'est le verset 41. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes, donc la foule a dû être immense, hein, furent ajoutées au nombre des croyants. Et ce que nous voyons là, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient, il y a des conversions. Un verset 8, l'accomplissement, c'est pas seulement que les gens entendent, mais les gens se convertissent. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que l'Esprit génère des conversions. Lorsque une église est remplie de l'Esprit, l'église, le collectif, mais individu aussi, il y a des gens qui se sont vers le Seigneur. Et la question que j'ose poser, c'est que est-ce qu'il y a des véritables conversions ici dans l'Église au soir? Est-ce que vous êtes remplis de l'Esprit? Est-ce que l'Église est remplie de l'Esprit? Ça, c'est la question. Hein? Et c'est facile de dire Amen. Mais parce que ça me dit, est-ce que le Saint-Esprit t'a touché profondément pour que tu sois purifié et pour que tu puisses marcher avec le Seigneur. Et pour beaucoup de personnes, le verset 41, c'est la fin du chapitre. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a eu l'accomplissement. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit vient, pied debout, croix, résurrection, conversion, 3000 baptêmes. Point à la ligne. C'est la fin? Mais non. Et c'est la fin du chapitre qui est un peu surprenant. Et ce que je vais faire, je vais mettre tout sur le même diapo. C'est un peu petit, mais je vais le lire. Et puis, je vais vous poser une question. Et voici la question. Quel est l'élément central de ces versets 42 à 47? S'il y a une chose que vous retenez de ces versets, c'est quoi? Ok. Alors, dès lors, ils, donc ça c'est les personnes qui venaient se convertir, s'attacher à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Vous n'aurez pas aimé entendre? Ah, moi j'aurais bien aimé. À vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient la propriété et le bien et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rampaient le pain dans les maisons, ils prenaient le repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui sauvaient. C'est un texte remarquable. Hein? Et je ne sais pas combien de fois j'ai mis ça à l'écran lors des réunions de prière, même ici. Hein? Mais s'il y avait une chose qui ressort de tout ça, c'est quoi ? Ensemble, communauté. Alors moi j'ai mis en jaune. Vivre en communion les uns avec les autres. Prier ensemble. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Répartissaient l'argent entre tous. D'un commun accord, prenez le repas dans la joie. Je sais pas, chacun en faisant un certain service, hein, c'était vraiment commun. Et le mot communauté qui dit long. Hein. Et ça montre quoi? Ça montre que lorsque le Saint-Esprit vient, la preuve de la venue du Saint-Esprit, c'est une véritable unité relationnelle, vie d'ensemble. Ça, c'est le signe du Saint-Esprit. Tout cet aspect communautaire est la preuve du Saint-Esprit dans l'Église aux Oirs. Ce ne sera pas seulement des conversions, de nouvelles personnes qui se tournent vers le Seigneur, mais une qualité relationnelle qu'on ne voit pas ailleurs. Mais Jésus en a déjà parlé. Hein. Et vous savez qu'il y a des versets dans la Bible qui m'ennuient beaucoup. Mais il faut les écouter et comprendre les implications. Et voici le verset. À ceci, tous. Qui c'est tous? Hein? C'est les chrétiens? Non, c'est ça, le monde. Reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous, c'est qui? Les chrétiens. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ça fait réfléchir, hein? Qu'est-ce que Jésus est en train d'inviter? Mais c'est comme Jésus est en train de dire, bon, maintenant, on va aller dans la rue Général de Gaulle et on va dire, oh, les amis, allez, venez. On va aller au café au coin, là, si c'est toujours là, et on va inviter tout le monde à venir ici, dans l'église. Et maintenant, regardez les chrétiens. Regardez la qualité relationnelle. Et si ils ont une véritable qualité relationnelle, vous avez le droit de dire quoi? Qui sont? Vous voyez pourquoi ça m'embête. Et donc Jésus, dans ce texte, et l'implication de Actes chapitre 2, quelle est ou quelle devrait être la preuve de l'authenticité de votre foi? Quelle est la preuve que tu es vraiment un disciple de Jésus? Est-ce que c'est le fait que tu as été baptisé? C'est pas ce que dit Jésus là, en tout cas. Est-ce que c'est parce que on vient au culte? Non. Jésus dit que la preuve que tu es un véritable disciple de Jésus-Christ, c'est la qualité relationnelle que tu exprimes. Parce que le relationnel est au centre du message chrétien. Hein? Et si on te mettait sur une échelle 1 et 10, toi, sur le niveau relationnel, où est-ce que tu te placerais? Et l'Église d'ailleurs. Parce que c'est encore plus important aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous pensez que les gens, en général, sont satisfaits sur le plan relationnel? Pas vraiment, hein? Et parce que on rencontre, et c'est probablement ton cas, on a eu des déceptions sur le plan relationnel, hein? Pour ne pas dire blessés. Et je suis absolument certain qu'il y a certains d'entre vous qui sont en train de lutter avec des véritables déceptions. De la famille, de la société. Il faut que je vous raconte l'histoire de Paco. Vous connaissez, non? Paco, Paco espagnol. Hein? Et Paco, jeune adolescent, et Paco était jeune adolescent turbulent, et avec papa, c'était deux taureaux dans le même champ. Hein? Et il y avait des échanges, je vois, assez... vive, et Paco est parti en claquant la porte. Et évidemment, après ça, papa a profondément regretté cet échange de voix. Et puis, alors, comment faire pour me mettre en contact avec Paco? Je ne sais même pas où il est. Et puis, il a eu cette idée géniale. Il dit, ce que je vais faire, je vais mettre une... publicité dans le grand journal de Madrid. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et c'était marqué « Paco, tout y pardonné, rendez-vous sur l'escalier de la poste centrale de Madrid, samedi à 2h. 14h. » Alors, vous imaginez que... Samedi venu, que le papa, et il arrive avec beaucoup de tremblement devant le poste central, et vous savez ce qu'il a vu? 800 Paco. Mais ça dit long aussi dans cette société, hein? Et j'imagine qu'il y a beaucoup de Paco ici. Et moi, je constate qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est peut-être ton cas, hein, on vient dans l'Église parce qu'on a soif de relationnel. Et en disant ça, moi je pense à des personnes que j'ai côtoyées ici, qui avaient envie vraiment de développer des relations parce que justement, à cause de la déception, à cause des blessures de la vie. Mais le problème, c'est à cause de la vie, ils n'arrivent pas à établir des relations. Et ça augmente la fragilité, ça augmente la vulnérabilité. On arrive dans l'Église avec des attentes. Et Jésus dit, la preuve... de l'authenticité de la foi, ta foi, dépend de l'établissement relationnel. Et à chapitre 2, dit la preuve de l'esprit, c'est le relationnel. Alors, si j'avais le temps, et s'il y avait des Kalachnikovs cachés par quelque part, Moi, je développerai les implications pour l'Église. Et pour l'Église au soir. Hein. Je vous en donne deux. Alors, le premier, deux implications pour l'Église au soir. Si vraiment le relationnel soit au centre de ta vie et de la communauté. D'abord, je, quand je dis « je dois apprendre à établir des relations véritables. » Ça veut dire, il faut que je me mette en mode changement. Est-ce que tu trouves que pardonner les gens, c'est facile? Est-ce que tu trouves que aimer tes ennemis, c'est facile? Est-ce que tu trouves résoudre les conflits, c'est facile? Et pourtant, on est là, au centre. Hein? Et c'est là, on arrive à une idée fausse qui est véhiculée dans certains milieux. Voilà, le Saint-Esprit, je deviens un chrétien. Et le Saint-Esprit vient sur moi. Bouf! Et maintenant, j'aime tout le monde! Youpi! Et c'est faux. Et l'apôtre Paul n'était pas de cet avis. L'apôtre Paul a dit, efforcez-vous de conserver l'unité qui donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot efforcer? Est-ce que ça veut dire que ça vient naturellement? Efforcer, ça veut dire que tu dois faire des efforts? Beaucoup? Ben oui, hein? Et donc, nous sommes, ce que je viens de dire, en mode changement. Ma fille Sarah, qui travaille à Roissy-en-Brie et qui dirige des structures sociales, m'a dit dans la semaine que 50% de son temps, c'est résoudre les conflits, c'est aider les gens dans le relationnel. Donc, si dans nos églises, on a quelques petits problèmes relationnels, c'est pas étonnant. On est des Français quand même. Des chrétiens. Et les protopoles, ils ne sont pas naïfs. Hein. Donc, ça veut dire que la question, c'est comment est-ce que tu vas changer, toi? Ça, c'est la question. Et moi, quand je pense à toutes les erreurs que moi j'ai commises, alors là, on serait là jusqu'à cet après-midi. Je vous en donne deux. Alors, on est en train de vivre en communauté et je me promène et je pense à tout ce que je devais faire et je marchais devant cette jeune fille qui était assise là et elle m'interpelle et dit « Tu as un problème avec moi ?» Je regarde, qu'est-ce que je raconte ? Elle dit, pourquoi tu dis ça ? Mais elle dit, mais quand tu passes devant moi, tu ne me regardes même pas. Je dis, mamma mia. Et c'est vrai. Quand j'ai quelque chose en tête et je me promène comme ça, moi je ne vois même pas les gens. Mais je passe devant Paul comme ça. Qu'est-ce qu'il peut penser, lui? Alors, il peut penser que j'essaie de l'éviter. Il peut, hein? Il peut penser que je ne m'intéresse pas à lui. Ou il peut penser, tout dépend s'il s'est disputé avec sa femme avant, mais il peut penser même qu'il y a rejet, non? Et moi, j'ai dit, oh là là là, il faut absolument que je change ma façon de faire. C'est pas facile, hein? Mais ce que j'aurais pu dire, c'est « Mais moi, je suis comme je suis, et il faut que tu m'acceptes tel que je suis. » Vous avez entendu les gens dire ça? Et ça, c'est interdit comme pour un chrétien. Strictement verboten. Interdit. Parce que nous sommes tous en mode changement. Comment est-ce que tu vas changer ta vie relationnelle? Et puis, il y a le fond et le forme. Et je me vois ici, justement, sur l'estrade, un dimanche matin, et je suis en train de prêcher. Et puis, je vois entrer, donc à peu près assis, là où est Julie, là, et une femme, et on avait prié pour elle. On avait prié pour elle, mariage bancal, pour le dire gentiment. Et là, elle était là du dimanche matin. Et en plus, le Seigneur m'avait donné un message qui était exactement pour elle. Alors, j'étais excité déjà avant. Et puis, évidemment, je continuais. Et à la fin, alors je ne sais pas ce que fait Manu, mais moi, je me mettais toujours à la porte là. Et je saluais. Elle est venue devant moi. Et je lui ai dit, ce message, c'était pour toi. Elle n'est plus revenue à l'église. Et moi, je rigole pas, hein, parce que ce que j'ai fait, c'était absolument lamentable. Ce n'est pas faux ce que j'ai dit, mais ma façon de le dire pouvait être un tout petit peu améliorée. Hein. Vous n'avez jamais entendu les gens dire « Mais moi, je suis franc, je dis les choses comme... » Vous avez entendu? Mais ça, c'est inacceptable pour un chrétien. Parce que les gens qui sont francs et disent des choses comme ça, un peu comme moi, mais souvent on crée des erreurs énormes, pas sur le fond, mais sur la forme. Opération changement. Est-ce que tu es en mode changement sur le plan relationnel ? La deuxième chose, c'est que je dois apprendre à encourager les autres. 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit « Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. » Barnabas, le collègue de l'apôtre Paul, son surnom, c'était le fils de l'encouragement, ou celui qui encourage. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un dit, c'est quelqu'un qui encourage, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si je disais, ce qui est fort, c'est mon ami Paul Kuhn, c'est il encourage les autres. Est-ce que ça veut dire me le dimanche matin? Est-ce que ça veut dire, bon, on tape sur l'épaule, allez, bonne semaine. Qu'est-ce que ça veut dire d'encourager les autres? Et ça veut dire qu'il faut que je connaisse ces gens. Hein. Moi, je ne peux pas encourager Marie-Christine si je ne passe pas du temps avec elle. Pour savoir où elle a besoin d'être encouragée. Tu t'intéresses aux gens, toi? Suffisamment pour les encourager? Ou est-ce que tu es toujours seulement en mode me? Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à mieux connaître les gens. C'est pour ça que les groupes de maison sont absolument essentiels. Hein. Et on encourage par les paroles. Moi, j'étais élevé, mes parents étaient des chrétiens de qualité. Mais moi, je n'ai pas le souvenir, il se peut que ça soit seulement les souvenirs, mais je n'ai pas le souvenir qu'une seule fois, mes parents m'ont dit, ma mère ou mon père m'ont dit, je suis fier de toi. Je n'ai pas le souvenir qu'ils ont dit, là, je suis content de ce que tu as fait. Et une fois que j'ai demandé à ma mère, pourquoi ? Elle a dit, parce que je ne voulais pas que tu aies la grosse tête. Elle n'a pas, c'est peut-être juste, mais cela veut dire que, et c'est curieux, 60 ans après, moi je ressens toujours le besoin d'être valorisé, parce que j'ai vécu sur le mode critique Et pas sur le mot de valorisation. Et parfois, quand je vais dans les églises, je pose la question, combien de vous ont vécu dans telle famille? Et 50% de l'assistance disent ça. Nous avons besoin d'être encouragés, valorisés et pas critiqués. Heureusement qu'il a l'école française, hein. L'éducation nationale qui est toujours en mode encouragement. Ou pas. Moi, j'ai le souvenir quand Tim Bouger est allé en prépa dans le sud de Paris. Hein, et il revenait le week-end dans le groupe de jeunes et il expliquait comment toujours ses professeurs étaient en train de dire « T'es nul, tu ne vas jamais réussir !» Et beaucoup d'entre nous ont vécu ça. Hein. Nous avons besoin de vivre, particulièrement en France, l'encouragement. Et moi, j'ai réussi d'une façon absolument magistrale avec mon fils Joël. Il a dû avoir 3, 4 ans, 5 ans peut-être. Et c'était en mode apprendre l'anglais. Et Joël, avec son visage sérieux, j'ai essayé de lui apprendre ce que ça veut, le mot querelle en anglais, c'est quarrel. Quarrel. Et il essayait de le prononcer, il n'arrivait pas. Et c'était tellement comique que je me suis éclaté de rire. Le visage de Joël s'est enfermé. Il n'a pas prononcé un seul mot en anglais pendant des mois. Pourquoi? Parce qu'il a senti les critiques. Il a ressenti le moquerie. Et pas l'encouragement. Est-ce que tu sais encourager, complimenter les gens, valoriser les gens? Jacques 4, et Jacques peut-être a vécu en France, « Frère, si vous ne vous critiquez pas les uns des autres, celui qui critique son frère ou qui se fait son juge critique la loi et la juge. Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres. » Bon, je suis en train de parler évidemment de l'église de Pont-de-Combo, pas d'Ozois. Hein. Et frère, donc évidemment pas les femmes. Si vous ne voulez pas être condamné, voici que le juge se tient déjà devant la porte. Si on avait une échelle 1 et 10, où est-ce que tu te mettrais, toi, en mode encouragement? Est-ce que tu sais encourager les gens? Et comment est-ce que tu mettrais le curseur pour l'Église? Imaginez, si seulement dans ce domaine du relationnel, j'y prends un seul domaine, hein, l'Église d'Ozoire se mettait en mode encouragement. Et tout le monde était en... Que ce serait une belle Église, hein. D'ailleurs, qui vas-tu encourager aujourd'hui? Et si tu mettais comme résolution de la Pentecôte, relationnelle, que tous les jours, tu vas faire le nécessaire, par SMS, par email, par WhatsApp, de préférence par parole, tu encourages quelqu'un. Alors, quand on sort du culte, qui est-ce que tu vas encourager? C'est ça, hein? C'est ça. On est en mode changement. Mais est-ce que tu penses qu'on va pouvoir faire ça tout seul? Et peut-être comme les disciples autrefois, on a besoin du Saint-Esprit. Non? Et peut-être, il serait utile si on priait chacun, tout d'abord silencieusement dans notre cœur, que le Seigneur change nos vies sur le plan relationnel, Et sur le plan encouragement, et puis j'irai prier après. Quelques moments de silence. Seigneur, nous avons tellement besoin de ton esprit. Nous sommes époustouflés lorsque nous lisons Actes chapitre 2 et nous voyons la qualité de la vie relationnelle dans l'Église parmi les premiers chrétiens. Et nous te demandons que tu fasses de nous des personnes qui grandissent sur le plan relationnel et en particulier ce matin, que tu fasses de nous des personnes qui encouragent plutôt que critiquer. Seigneur, montre-nous qui nous pouvons encourager, au nom de Jésus et au nom du Saint-Esprit, car nous avons tellement besoin de lui. Amen.